électriques vendues dans le monde.
Ouais, sachez que tout moteur confondu, c'est la Russie qui reste encore pour l'instant la première destination mondiale des voitures chinoises. RFI midi 10 à Paris.
Et merci sur la clé des ondes. Il est midi 10 aussi, bien entendu. Merci à Radio France Internationale pour la qualité de ce journal. L'occasion de rappeler que, bien sûr, il faut s'opposer à la fusion de ces services publics de audiovisuel avec France Télévisions, Radio France, comme vous le savez. Allez, on poursuit avec les infos locales sur la clé des ondes. Et tout d'abord, ces inscriptions ouvertement racistes taguées sur la mosquée de Pessac. Soyez racistes, votez blanc. Septième fois que ces tags haineux et racistes arrivent sur ce lieu de culte depuis 2015. À un acte à nouveau signé par l'extrême droite et le groupe Action Directe Identitaire. La mosquée de Pessac qui est aussi dans le viseur préfectoral depuis quelque temps. Le président de l'association des musulmans de Pessac, Abdourahmane Ridouane, est menacé désormais d'expulsion. C'est ce qu'on a appris vendredi dernier. Expulsion, procédure d'expulsion pour incitation à la haine. L'intéressé estime que son engagement pro-palestinien et sa liberté d'expression sont ainsi visés et je le cite que cette procédure d'expulsion est une cible collée dans son dos par la préfecture que les snipers de l'extrême droite n'ont pas manqué de saisir. Fin de citation. La préfecture avait déjà par le passé tenté une procédure de fermeture de la mosquée qui s'était faite s'était faite finalement déboutée par le Conseil d'État pour atteinte grave à la liberté de culte. L'audience publique pour la commission d'expulsion d'Abdourahmane Ridouane aura lieu ce vendredi à 14h au tribunal judiciaire de Bordeaux. Autre information judiciaire qu'on pouvait lire dans Sud-Ouest et pour le moins inédite et intéressante, les habitants du bidonville de Bordeaux-Lac ont contesté leur expulsion. Les travailleurs de la vigne et famille roumains ont lancé cette procédure accompagnée par l'avocat maître Paul Cesso. Ce dernier estimait lors de l'audience hier que les 450 personnes ont un droit au domicile, à la vie familiale et à l'intérêt supérieur des enfants. Or, les procédures d'expulsion répétitives qu'ils subissent mois après mois empêchent leur scolarisation. La métropole a fait savoir de son côté en répondant notamment par le droit à la propriété. La juge du tribunal judiciaire de Bordeaux rendra donc sa décision le 10 juin prochain. Journée de grève et de débrayage à Ariane Group. Aujourd'hui, l'augmentation proposée par la direction lors des négociations annuelles obligatoires ne suit pas l'inflation, dénoncent la CGT et la CFDT. Tout ceci dans un contexte délicat pour l'entreprise, mais surtout difficile pour les salariés, notent les deux syndicats. D'ici quelques semaines, la fusée Ariane 6 fera en effet son vol inaugural. Des débrayages d'une heure ont donc eu lieu dans la matinée, notamment sur les sites du Hayan et de Saint-Médard-en-Jal pour revaloriser les salaires. On termine ces infos locales par un appel au rassemblement en solidarité au peuple kanak et au peuple palestinien. Ça se passe à 18h devant l'hôtel de ville de Bordeaux. Un appel général pour le droit à l'autodétermination de tous les peuples opprimés. Lancé par 13 organisations parmi lesquelles on retrouve l'association Survie, la CGT Éducation et le syndicat Union étudiante ou encore Révolution permanente et le parti également du nouveau parti anticapitaliste. Voilà, fin de ce journal midi 15 sur la clé des ondes. Une journée de mobilisation se prépare pour faire cesser le scandale des élèves sans domicile. Elle aura lieu jeudi 6 juin. Elle est organisée par RESF, le réseau Éducation sans frontières. Information et préparation autour de cette mobilisation aura lieu ce soir sur invitation d'ailleurs également du réseau Éducation sans frontières. Ça se passera à 18h à la zone à partager de Bègles, place du 14 juillet. L'occasion pour nous aussi de parler de cette question du logement, de l'impossibilité de se loger ou alors des quelques fois et très souvent même d'être mal logé. C'est à l'occasion d'une table ronde où on retrouve Gérard Clabé du guide du Bordeaux colonial et de réseau Éducation sans frontières. Gérard Clabé qui animait ce temps d'échange enregistré sur le village des associations lors du congrès national de la Ligue des droits de l'homme qui avait lieu il y a 10 jours à Bordeaux. Une table ronde pour parler de la situation des femmes, hommes et enfants qui subissent des conditions de vie indignes en dormant dans des lieux insalubres ou à la rue. Une table ronde qui se construit autour de l'analyse produite par la Ligue des droits de l'homme de Toulouse, qui a fondé un observatoire sur ce mal-logement. Gérard, c'est à toi.
Comment on fait devant cette situation absolument impossible à accepter, mais que l'État semble accepter pourtant, l'État qui normalement est engagé, est obligé de faire de l'hébergement d'urgence inconditionnel au travers de l'hébergement d'urgence et qui ne le fait pas. Donc nous vous proposons aujourd'hui de partager un petit peu nos expériences et nous sommes très nombreux autour de cette table et chacun va se présenter pour commencer.
Voilà,
Je m'appelle Jean-François Mignard, je suis un des membres de la Ligue des droits de l'homme à Toulouse, et comme ça a déjà été annoncé, effectivement, je suis venu dans le cadre du congrès à Bordeaux témoigner d'une enquête et d'un travail qu'on a mené sur Toulouse sur un cas particulier qui est lié à cette question de l'hébergement d'urgence. C'est la situation des gens qui sont placés dans des hôtels après avoir appelé le 115, qui est le numéro d'urgence qu'on fait quand on est à la rue, pour le dire comme ça. Et donc on a passé un moment pour aller voir comment ça se passait, essayer de comprendre comment ça fonctionnait, et notamment dénoncer des conditions qu'on évoquera, j'imagine, par la suite.
Bonjour, Nicole Guillonnet, je suis adhérente à l'association AREV depuis 4 ans maintenant et membre du conseil d'administration depuis 2 ans. Donc AREV est présente au village des droits de l'homme pour présenter ses activités autour de l'accueil des demandeurs d'asile et son accompagnement aussi pour une meilleure intégration de toutes ces personnes laissées à la rue.
Je suis Éric Blaise. Avec d'autres militants, nous avons créé une association qui s'appelle Tripote et Mascagne, qui s'engage dans la lutte contre le non et le mal logement. Et plus récemment, Tripote et Mascagne a rejoint une association qui s'appelle Dédale, qui a une vocation similaire mais qui fonctionne avec d'autres moyens.
Alors moi, c'est Graziella Adangui et je suis là pour la clé des ondes.
Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Julien Silim. Je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Je suis également animateur d'une émission qui s'appelle Sadjikoa, qui se trouve à Blanquefort, avec c'est associative. Et si je suis ici aujourd'hui présent, c'est pour vous parler en tant que jeune et en tant que personne qui ait vécu pendant un certain temps dans un appart-hôtel. Donc j'aimerais, comme je l'ai vécu la chose, j'aimerais en témoigner en direct avec vous aujourd'hui. Voilà.
Bonjour, je suis Harmonie Le Cerf-Meunier, adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'accès aux droits, des solidarités et des seniors. Et je suis également vice-présidente de l'ANVITA, l'Association nationale des territoires et villes accueillantes.
Moi, je suis Claudie Saint-Sever de l'association AREV, accueil de réfugiés en Val de l'Eyre. Et comme l'a présenté Nicole, nous proposons des accueils à des personnes qui pourraient se trouver à la rue. Voilà. Un hébergement citoyen.
Alors, moi, Gérard Clabé, je vais essayer d'assurer l'animation de ce débat, mais je pourrais aussi intervenir au nom du réseau Éducation sans frontières qui accompagne les familles avec des enfants scolarisés. Et des banderoles commencent à fleurir devant les établissements scolaires sur Bordeaux, indiquant que le jour, les enfants sont à l'école et après l'école, c'est la rue, la voiture, la galerie commerciale. Bref, des endroits où les enfants n'ont pas à être. Alors, on va commencer par toi, Jean-François. Donc tu viens de Toulouse et tu vas nous raconter comment, de façon concrète, comment vous avez levé un lièvre, même si ça commençait à être connu, comment vous êtes aperçu que ces hôtels, quand les gens téléphonent au 115, on les dirige, le 115 donc, ce qui est le numéro pour l'hébergement d'urgence, on les dirige vers des structures hôtelières privées.
Enfin, quand ils arrivent à avoir une réponse, je vais indiquer 6% des appelants arrivent à avoir une réponse.
Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez raconte-nous ce qui s'est passé qui fait que vous avez découvert l'indignité de ces lieux.
On s'en doutait un petit peu, mais le déclencheur, on va dire, c'est anecdotique, mais on le raconte souvent parce que c'est quand même, ça explique bien la situation. C'est des militants associatifs d'une association toulousaine qui s'appelle le Cercle des voisins de Corne-Barrieux, à côté d'un centre de rétention administrative, qui ont été amenés à accompagner une famille qui était une famille qui a manqué être en rétention et dans un hôtel qui était un hôtel. Qui lui a été désigné par le 115. Miraculeusement, ils ont réussi à avoir quelqu'un au bout du fil, hein, ce qui est quand même très très compliqué. Et ces gens-là donc ont été accompagnés par l'ami militante qui les a menés dans un hôtel. Et quand ils sont rentrés dans cet hôtel-là, il y a eu Alors, à 20 km de Toulouse, déjà, bon, hein, c'est pas évident pour les suites. Et il y a eu une espèce de mouvement recul en disant, nous, on va pas aller là-dedans, quoi. Hein, on va pas aller là-dedans parce que c'est tellement sale, c'est tellement... Voilà, qu'on ne peut pas dormir là-dedans. Je passe en règle générale les détails parce que c'est toujours compliqué, ces histoires. Hein, après être arrivé à trouver une solution intermédiaire sur un autre hôtel, fait là, l'ami militante les a laissés un peu très tard le soir en disant « Je repasse demain matin, je vous récupère et comme il semblerait que vous ayez des contacts un peu plus loin d'une famille qui puisse vous récupérer, on va... » Mais voilà, cette nuit, au moins, il y a ça de possible. Et le lendemain matin, quand elle est allée récupérer la famille à l'hôtel, la famille elle a réalisé que la famille avait dormi dans le parking de l'hôtel. Et là, bon, elle-même a dit, c'est un truc, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Ça, c'est pas possible qu'on laisse faire ce genre de choses-là. Au-delà de ce cas individuel, comment ça se passe dans ces hôtels, quelle est la réalité de ce qui s'y passe, voilà. Et c'est parti de là.
Voilà. D'où votre idée pour se mobiliser, pour réagir, de monter un observatoire.
Voilà. Alors, on a un peu l'habitude à Toulouse, on est un peu habitué à ce genre de choses. C'est un observatoire, pour nous, c'est des points de passage obligés, c'est des militants avec des associations. Là, il y avait les États généraux des migrations, il y avait le centre des voisins de Colmar-Dieu, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde, qui est en permanence, les hôtels Médecins du Monde, parce qu'ils sont mandatés pour aller voir les gens qui sont en difficulté sanitaire ou en problème de santé. Et pour nous aussi, systématiquement accompagnés par des universitaires. C'est-à-dire, quand on va voir les choses, on le fait de manière à ce que ce dont on rend compte est construit, est élaboré, est objectivé. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas nous raconter des histoires en disant ce que vous racontez, c'est pas vrai, hein, parce qu'on a pris tout le travail, enfin, c'est long, c'est compliqué, mais on s'entoure de toutes les garanties pour que on puisse, ce qu'on dit puisse être circonstancié et particulièrement à cette occasion-là, on fait avec des fois d'autres outils, on a été accompagné par des photographes, hein, qui sont des photographes professionnels. Ils étaient quatre et à la fois parce qu'un des quatre photographes avait déjà été sensibilisé à ça, donc il a amené ses trois collègues, et puis parce que ça nous paraissait important de montrer, au-delà de ce qu'on pouvait raconter, de ce que dont les gens pouvaient parler, de montrer leurs conditions de vie. En gros, c'est quoi le quotidien des gens qui sont souvent des familles dans ces hôtels-là. Voilà. Donc, à la sortie, il y a eu un rapport assez classique et une exposition photo et aussi un livre. Voilà, un livre qui raconte une expérience de quelqu'un qui était à l'équipe en face, qui était réceptionniste.
Expo photo d'ailleurs qu'on peut voir durant les trois jours du congrès et qui se trouve...
Elle se trouve à l'endroit où il y a le congrès, c'est-à-dire à l'université, là, hein, sur la place de la Victoire. Mais on a choisi d'avoir deux expositions. On a une exposition qui est une exposition... celle que vous verrez si vous venez la voir, c'est une exposition qui est assez légère et on a une vraie exposition avec des vrais photographes, c'est-à-dire il y a presque une centaine de photos et aujourd'hui elle est en exposition à la galerie du Château d'Eau à Toulouse parce que ça, et on trouve quand même symboliquement très, très important qu'à Toulouse, une des plus grosses galeries photos de France expose des photos de gens qui sont des familles sans papier et qui expliquent et qui montrent ce qu'ils vivent au quotidien là-dedans. C'était aussi pour nous important, voilà, cette manière de donner à voir.
Conclusion, aller un petit peu plus vite, peut-être vos conclusions, c'est que sur les 50 hôtels...
Il y a 50 hôtels à Toulouse qui reçoivent des personnes qui sont orientées par le 115. On en a visité 25. La moitié des hôtels toulousains qui reçoivent des gens placés par le 115, on est allé les voir et on est allé rencontrer donc une trentaine, 35 familles avec des adultes et des enfants qu'on est allé rencontrer, avec qui on a discuté, avec qui on a eu des entretiens et qu'on a pris en photo ou qu'on a aidé dans une démarche dans laquelle eux-mêmes prenaient des photos sur ce qu'ils vivaient. Voilà.
Alors, votre constat ?
Alors, notre constat, je vais aller assez vite. Alors, d'une part, on a bien entendu rencontré des situations qui sont des situations quasi insupportables. Avec des hôtels borgnes, avec des punaises de lit, avec des literies qui ne sont pas changées, avec des comportements qui sont des comportements extrêmement... limite de la part des patrons d'hôtels. On a même, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on est même intervenu trois ou quatre fois en tant que Ligue des droits de l'homme en alertant les directions d'hôtels en disant si vous continuez, on va signaler ce qui se passe. Hein, voilà, donc bon, les choses se sont améliorées. Alors, bien sûr, il y a des logements qui sont indignes et ça existe. Il y en a qui ne sont pas indignes. Hein, il y en a qui sont. Mais par contre, ce qui est absolument indigne, c'est de faire vivre des familles. Il faut imaginer des fois cinq membres de la famille dans un hôtel qui est un hôtel peut-être très bien tenu, mais pour lesquels, ce que nous on fait, pour le dire comme ça, dans notre maison ou dans notre appartement, ça se fait dans une chambre d'hôtel. Imaginez, et il y en a certains, ça fait deux ans, qui sont dans cet hôtel-là, voire qui sont passés d'hôtel en hôtel. Hein, le 115 ne laisse pas trop le choix. Ces gens-là, si dans un hôtel ça se passe mal, le 115 les prend et les amène ailleurs. Voilà, hein, ils ont pas trop le choix. Voilà. Là, on dit effectivement, c'est ça qui est indigne. C'est à la fois des situations extrêmes, hein, mais au-delà même des situations extrêmes, cette manière de faire est une manière qui produit de l'indignité pour nous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est le message un petit peu fort. Après, il y en a d'autres à côté, hein, qui est qu'une bonne partie du secteur des hôtels solvabilise l'offre, comme on dit, de logement en utilisant l'argent qui est dépensé par. Ça coûte un bras, comme disent les jeunes, hein, ouais, l'hébergement.
Ça coûte très, très cher. C'est la solution la plus cher.
Bien sûr, ça coûte très cher, surtout que nous, ce qu'on a mesuré, c'est qu'un certain nombre d'hôteliers n'hésitent pas à facturer le prix fort pour des hébergements qui, des fois, n'ont pas lieu. Hein, c'est-à-dire que la famille, il y a quelques hôteliers, mais bon, c'est scandaleux. Mais ce qu'on, voilà, hein, on a repéré des hôteliers qui facturaient depuis trois mois des familles censées être hébergées chez elles et qui étaient parties. Voilà. On a choisi dans le rapport qu'on a fait de ne pas citer de nom. Hein, parce qu'on ne voulait pas non plus. Alors, à la fois, ben, bon, s'il faut, on les citera, mais parce qu'on voulait attirer le regard, pas sur les situations les plus scandaleuses, qui sont scandaleuses, mais sur ce qui est vraiment aussi scandaleux, c'est le quotidien des gens qui vivent là-dedans. Quoi.
Jean-François, vous préconisez quoi ?
Alors, ce qu'on préconise, c'est que l'État arrête de se défausser sur le secteur privé. De prérogatives qui lui appartiennent. Voilà. Hein, ben parce que c'est absolument. C'est intolérable. Par la situation que vivent les gens. Mais ce qui est terrible, c'est la défausse. C'était, à des moments donnés, on se demande si elle n'est pas cynique, hein, qui met les familles en situation très très difficile. Bon, je ne reviens pas dessus. Venez voir l'exposition, vous verrez. Mais qui met énormément en difficulté les gens qui sont censés s'en occuper, y compris les gens qui sont dans le 115. On a discuté avec les gens qui font fonctionner le 115 et qui, à Toulouse, pendant qu'on faisait l'enquête, on fit jouer leur droit de retrait, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont arrêté le travail en disant « c'est insupportable ce qui se passe, on passe notre temps à ne pas mener de réponse à des gens qui sont déjà dans la détresse la plus noire ». Et ils ont dit « on arrête de travailler ». Donc, c'est vraiment une logique qui est une logique de privatisation sauvage d'une mission qui est une mission de service public, voilà. Y compris quand on a fait de la restitution, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi au moment du débat, quand on a, parce qu'on est allé travailler aussi avec les travailleurs sociaux, c'est-à-dire qu'on a restitué le travail d'enquête, qu'on a fait ce qu'on fait toujours, hein, c'est-à-dire qu'on discute avec les gens qui nous ont rencontrés, avec qui on a débattu, hein, c'est un peu plus politique ce que je vais dire, c'est une certaine manière de penser l'action sociale. On a eu des gens qui ont des responsabilités politiques qui nous ont dit, ben ouais. En gros, aux associations, aux citoyennes, aux citoyennes de se débrouiller, c'est ça la modernité. Voilà. Il faut que les hôtels deviennent un peu des centres sociaux. C'est le social entreprise. On sait ce que c'est. Hein, je veux dire, c'est en gros le social, c'est comme n'importe quelle entreprise. Et les hôtels, c'est des entreprises privées. Il faut qu'elles fassent un petit peu de social. Et tout ça, tout compte fait, même si c'est un peu tendu, ça en sortira. On pense effectivement que c'est vraiment une arnaque terrible, cette affaire.
On va se tourner vers. Tout le monde se tourne vers l'institutionnel qui est présent autour de la table.
J'ai parlé de Toulouse. Hein.
Harmonie, le CERF.
Alors nous, on
pense que l'accompagnement social des personnes, c'est un bien commun qui ne doit pas être privatisé, même s'il y a des associations qui le font et qui le font très bien et que l'on peut subventionner pour ça. Mais en revanche, quand des associations, y compris de l'économie sociale et solidaire, deviennent plutôt des entreprises et un business, nous, ça nous dérange beaucoup, d'autant plus que la ville de Bordeaux défend vraiment l'économie sociale et solidaire dans son identité première. Moi, je pense que le problème principal dans cette histoire, c'est qu'il y a trop de sans-abri. Il y a beaucoup trop de sans-abri. Pourquoi il y a trop de sans-abri ? D'une part, parce qu'il y a trop de sans-papiers en France. Donc, à un moment, il va falloir régulariser. On ne passera pas par autre chose. Il faut régulariser massivement les sans-papiers qui se trouvent en France. L'Espagne s'apprête à le faire après une mobilisation citoyenne. Il faut régulariser ces personnes. Elles n'ont pas de droit au logement, ni de droit au travail. Elles sont sur le territoire. On ne les renvoie pas dans leur pays. On sait très bien pourquoi on ne les renvoie pas dans leur pays. Il faut être un peu honnête et puis il faut régulariser ces personnes et qu'elles puissent s'insérer dans la société comme tout le monde. Il y a trop de sans-abri parce qu'il y a un vrai problème de logement en France qui vient amplifier le nombre de SDF sur le territoire. Et il y a trop de sans-abri parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour accompagner sérieusement les personnes qui sont en situation de sans-abrisme, de mal-logement, d'hébergement citoyen ou d'hébergement familiaux. Quand on est arrivé à un point comme aujourd'hui où le fonctionnement officiel de l'hébergement d'urgence partout en France, pas qu'à Bordeaux, mais c'est le cas à Bordeaux, c'est 15 jours d'hébergement, puis on est remis à la rue. C'est un vrai problème en 15 jours. Une personne qui se retrouve à la rue parce qu'elle a des problèmes de santé mentale, d'addiction, de rupture familiale, de rupture professionnelle, ces personnes-là, en 15 jours, elles ne peuvent pas réintégrer un logement, se resocialiser, remettre en place toute leur sécurité pour pouvoir reprendre une vie, entre guillemets, normale. D'ailleurs, la loi, elle dit que l'hébergement est inconditionnel, mais aussi la loi dit qu'il est stable et continu. L'hébergement doit être stable et continu. Donc on a besoin aujourd'hui de moyens qui soient mis sur la table, de moyens conséquents, très conséquents, qui soient mis sur la table pour accompagner ces personnes. Et en plus, moi, je vous rejoins sur le fait que, alors les associations, c'est très bien, elles font plein de travail, mais qu'il faut remettre cette responsabilité à l'État. D'ailleurs, nous, on n'est pas particulièrement pour une délégation plus locale de la question de l'hébergement d'urgence, parce que ça doit être la même chose sur tout le territoire national. On ne va pas encore nous pondre un truc où il y a des territoires qui sont volontaristes et qui, du coup, qui se retrouvent à faire quand d'autres territoires poussent un peu vers l'extérieur les personnes qui sont là. On pense que nationalement, il faut un sursaut, qu'on est dans une situation d'extrême urgence au regard du sans-abrisme et qu'il faut que les moyens soient mis, soient débloqués, des millions d'euros pour ouvrir en urgence plusieurs milliers de places d'hébergement d'urgence et pour mettre des moyens en accompagnement social, pour mettre des moyens en logement, en création de logement et pour régulariser les personnes sans papier, même si ça, ça coûte pas d'argent.
On rappelle juste que s'il n'y avait pas eu le Conseil d'État qui a cassé certains articles de la loi Darmanin, il n'y aurait plus dans ce pays d'hébergement d'urgence obligatoire par l'État. Ça n'existerait plus. Donc la situation est gravissime et il va falloir batailler très fort pour arriver à maintenir, ne serait-ce que maintenir, le principe de l'hébergement d'urgence inconditionnel dans ce pays. Je me tourne maintenant vers les représentantes de AREV, qui est une organisation d'hébergeurs solidaires, car c'est, je ne dirais pas solution, le mot serait trop définitif, c'est un moyen que vous, citoyens, vous avez trouvé pour essayer de répondre à cette problématique des personnes sans toit et qui ne trouvent pas de solution d'hébergement ou de logement.
Le plus simplement du monde, en fait, on était un ensemble de personnes qui étaient très touchées par toutes ces personnes à la rue. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Accueillir quelqu'un, mais ouvrir les maisons, en fin de compte, à l'envers des hôtels, des situations d'hôtels. On s'est dit, c'est plutôt accueillir chez soi. Il faut accueillir chez soi pour permettre une meilleure intégration. Bon, c'est cet esprit-là, en fait. Mais accueillir chez soi, toit, si on veut pouvoir accueillir pendant longtemps, eh ben, on sait bien que ce n'est pas un seul foyer qu'il faut ouvrir, c'est plusieurs foyers qui pourront fonctionner en boucle. Donc c'est un peu ça, en fin de compte, notre marque. C'est-à-dire qu'on met en place des boucles d'accueil pour que des personnes, des demandeurs d'asile, puissent aller de famille en famille pendant un certain temps et être accompagnés pendant tout ce temps, justement, de l'accueil.
Vous disiez tout à l'heure qu'il vous arrive de recevoir des coups de fil du 115.
Alors, les coups de fil du 115, oui. Alors moi, je laisserai la parole à Claudie après. Mais moi, ce qui m'avait le plus quand même estomaqué dans l'histoire, dans les espèces de paradoxes complètement fous auxquels on est confronté, c'est quand même ces coups de fil de travailleurs sociaux. Moi, c'est ça surtout. Donc d'assistantes sociales et d'éducateurs, parce que ça s'est vraiment précipité ces derniers temps. Donc des associations mandatées par l'aide sociale à l'enfance qui travaillent. Donc là, on est dans le département, on n'est plus au niveau de l'État, ok. Mais il n'empêche, donc on a des travailleurs sociaux qui humainement sont vraiment mobilisés pour venir en aide à ces personnes qui se retrouvent à la rue. Là, en l'occurrence, c'était des MNA, des mineurs non accompagnés, de plus en plus nombreux, qui les accompagnent pendant des mois, quand même, qui partagent leur quotidien, leur intimité. Il y a un investissement énorme de la part de ces gosses et de la part de ces travailleurs sociaux. Et puis, tout à trac, il y a une entrevue. On leur dit, le juge dit, il n'est pas mineur. Donc, ça veut dire, du jour au lendemain, remise à la rue, et tu as le travailleur social, tu as l'éducateur qui dit, demain, je t'amène à la rue, et tu as une liste là, dans le meilleur des cas, d'avocats sur Bordeaux. Et c'est là que nous, on est contactés, et qui nous dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, et nous, on essaye de mettre en place, à ce moment-là, en effet, si on peut, une boucle d'accueil pour ces jeunes-là.
A animé, c'est pas du tout la bien-pensance dans notre association, mais c'est l'indignation. C'est l'indignation qui nous anime et on rejoint ce que vous disiez. Nous, on se retrouve maintenant avec des personnes que nous accueillons dans les familles sur des longs mois, même plusieurs années, parce que les démarches n'en finissent pas, l'État ne donne pas de papier, les gens se retrouvent sans possibilité de travailler, sans papier et sans toit sur la tête. Donc c'est comme ça aussi qu'on se retrouve maintenant avec des familles, des mamans seul avec enfants, des familles à plusieurs enfants dans notre réseau d'accueil.
Et pour reprendre ma question, le 115 vous appelle ?
Le 115 peut appeler le soir à 20h, ça, c'est arrivé il y a 15 jours. Vous êtes à Rêve, on a un jeune Guinéen qui est là, dans la rue, on ne sait pas où le mettre, il est très fragile, il n'est pas bien du tout. Mais non, nous, on ne peut pas, là.
Ça peut paraître surprenant, mais il ne faut pas oublier que les écoutants du 115 sont des travailleurs du social. Ce sont des gens ici à Bordeaux qui travaillent dans une association, ailleurs parfois dans des institutions, et qui se retrouvent aussi totalement démunis parce qu'eux ne peuvent proposer que les solutions qui sont mises en place par l'État. Ce n'est pas le 115 qui décide ou pas d'ouvrir des places. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'à un moment, ils essayent, et je trouve ça même plutôt sain, qu'ils essayent de trouver des solutions. Ça montre aussi qu'ils ont encore un petit peu d'espoir et qu'ils sont pas totalement au bout du rouleau quand ils font ce travail d'essayer coûte que coûte de mettre quelqu'un à l'abri.
Eric, peut-être que toi tu rajouterais une autre dimension en parlant des solutions d'urgence, de secours que les gens trouvent eux-mêmes pour éviter la rue.
Du squat ou des bidonvilles, évidemment.
Amener sur ce terrain-là, tu peux aussi rajouter d'autres éléments, bien sûr.
Oui, parce qu'effectivement, on a cité ces gens qui partent d'hébergements qui leur ont été octroyés pendant quelques jours et qui se retrouvent à la rue. Effectivement, les gens, la plupart du temps, et on en connaît qui habitent dans les voitures, qui vivent à la rue, mais bien souvent, ils trouvent un moyen d'hébergement. Et le plus souvent, effectivement, c'est le squat ou le bidonville. Et c'est là que nos associations interviennent. Donc l'association Tripote et Mascagne, on retrouve ces gens, on leur apporte notre soutien technique la plupart du temps. Nous sommes bricoleurs et artisans, et donc on leur apporte notre soutien pour le chauffage, l'eau chaude, l'eau tout court, l'électricité, etc. Moi, ce que je voulais signaler, Gérard, c'est qu'on a parlé de solutions. Effectivement, on est en face d'un problème de logement, comme disait Harmonie. ce problème-là, il coexiste avec une vacance, donc une présence de logements vacants sur tous les territoires. Donc nous, on connaît l'agglomération bordelaise. Et donc on a, à côté de ce grave déficit de logements, y compris de logements d'urgence, on a une vacance extraordinaire dans une ville qui est en train de construire un peu partout donc du logement à Bordeaux. Donc cette vacance, nous, c'est nos deux associations, donc Tripote et Mascagne et Dédale, mais surtout Dédale, c'est cette vacance qui nous a fait réagir et nous a donné envie de proposer donc une solution qui est donc de mobiliser ce foncier vacant, qu'il soit des logements ou des immeubles, des ateliers, quels qu'ils soient. Alors voilà, de manière intercalaire, c'est-à-dire qu'on est conscient que le logement vacant, il peut avoir des raisons d'exister, des raisons, donc hein, une transition, un déménagement, on fait des travaux chez soi, ou une entreprise a décidé de faire donc de revoir sa fonction, etc. Donc la vacance, elle peut avoir une fonction acceptable, mais des logements vacants sur du long terme, ce qu'on appelle long terme, nous, c'est plusieurs années, une année, deux années, trois années, là, effectivement, ça devient très choquant dans une ville où on constate la présence de personnes à la rue dans leur voiture. Donc notre idée à nous, ça a été de mobiliser, de mettre en place les moyens pour mobiliser ces logements vacants, donc encore une fois, logements ou fonciers tout court, et de les mettre à disposition des personnes sans abri ou mal logées, quitte à y faire des travaux de réhabilitation pour les amener à un niveau donc, d'habitabilité qui nous paraissait décent. Voilà. Donc ça, c'est une proposition qui est faite. Nous sommes donc une association, principalement Dédale, qui s'est engagée dans cette voie. Et je rejoins Harmonie sur le fait que c'est un travail qui est peut-être une innovation, en tout cas sur le plan local, mais qui n'est pas forcément dévolu au secteur associatif. Et là, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est la fonction de l'État, c'est la fonction des collectivités d'assurer ce rôle. Nous, si nous proposons aujourd'hui cette action, c'est parce qu'elle est à notre portée. Voilà, on a des collectifs d'artisans, voilà, on a des gens professionnels, des actions de terrain, etc. Médecins du Monde, Architectes sans frontières, au départ la Fondation L'Abbé Pierre avec nous, les Compagnons bâtisseurs, voilà, des associations de maraude aussi. Donc on était en quelque sorte des acteurs de terrain. Donc on a cette idée qui nous est venue. Elle était à notre portée, on s'est lancé dedans. Mais on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de remplacer l'État ni la collectivité. Et d'ailleurs, notre souhait à nous, ça serait que cette association disparaisse le plus tôt possible et que la fonction sera reprise par l'institution, évidemment.
Je suis d'accord avec vous sur certains points, dans le sens où c'est vraiment compliqué pour certaines personnes qui sont entassées en fait dans ces logements, qui n'ont pas forcément de situation, qui n'ont pas de papier, qui peuvent pas travailler, qui peuvent... En fait, c'est un cercle vicieux parce qu'ils seront piégés. Ils sont piégés là-bas parce qu'ils vont rester longtemps. Sans possibilité de pouvoir évoluer. Parce que je ne sais pas comment, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut. C'est 15 jours à peu près, c'est ça, c'est 15 jours d'urgence. Mais 15 jours, c'est vraiment pas suffisant en fait, parce qu'il y en a qui peuvent rester là-bas des mois. Il faut chercher un travail, il faut un CDI déjà pour pouvoir accéder à un logement, et puis même les logements sociaux. À l'heure actuelle, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'ai postulé plusieurs fois dans les logements sociaux et ça m'a mis du temps avant de trouver quelque chose, surtout que maintenant, j'ai trouvé quelque chose, mais c'est assez loin. Et donc, je me mets à la place de ces personnes et je me dis, ouais, c'est vraiment pas évident, mais les solutions, elles seront compliquées à trouver aussi. Elles seront vraiment compliquées parce qu'il faut débloquer des fonds, mais énormément de fonds. Il faut débloquer d'autres appartes ou d'autres logements, enfin... À l'heure actuelle, personnellement, je ne sais pas trop comment débloquer la situation, en fait. Voilà, tout simplement.
Vous disiez tout à l'heure, au début, que vous avez une expérience personnelle.
Oui, oui. J'ai vécu dans un appart-hôtel, moi aussi. Et quand je suis arrivé dans un appart-hôtel, au départ, j'ai dû trouver du travail parce qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas. Je cherchais du travail. Heureusement, j'ai réussi à trouver... je suis en CDI maintenant et j'ai pu postuler à des logements sociaux. Mais même avec ça, j'ai attendu quand même longtemps. Ça veut dire que je suis resté longtemps dans ces appart-hôtels. Je suis resté le temps d'avoir des fiches de paye, d'avoir trois fiches de paye, parce qu'il faut trois fiches de paye pour pouvoir avoir un logement sociaux. Je suis parti regarder aussi dans le privé, dans les agences immobilières et tout, parce que c'était pas possible de rester là-bas. On est surveillé constamment. Il y a des gens qui rentrent dans votre intimité. Il y a des gens qui venaient dans notre intimité. Ça veut dire que si moi, j'étais pas là, que j'étais au travail, Il y a des gens qui rentraient dans la chambre, ils avaient les doubles des clés, et puis on touchait à mes affaires, quoi. Enfin, des trucs comme ça. Et moi, je trouvais ça que c'est vraiment n'importe quoi. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des conditions qui ne sont, sont pas faciles aussi. Et il y a des familles entassées. Je connaissais une jeune mamie qui vit avec les enfants de sa fille décédée. Ils vivaient là-bas entassés. C'est compliqué pour eux de manger. Parfois, même nous, on leur passait des petites choses pour aider, mais on ne peut pas aider tout le monde non plus, ce n'est pas évident. Des poussettes entassées sous les escaliers, laissez tomber. Voilà, des poussettes entassées sous les escaliers. Enfin, ouais, des conditions très compliquées. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter.
On revient à Toulouse, Jean-François. Ouais, est-ce, Toulouse, que ça, Bordeaux, ouais. Est-ce que sur Toulouse, c'était sur Bordeaux
non, que, non, moi, c'était l'expérience pas sur Bordeaux, oui, c'était sur Bordeaux, moi. C'était à Blanquefort. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ouais. Et
après, les conditions, elles ne sont pas extrêmes non plus. Hein. Ça veut dire que c'est quand même propre. Le personnel, il était pas. Enfin, le personnel, il était cool. Il n'y avait rien à dire. Mais voilà, quoi.
Ouais, Jean-François, il y a sur Toulouse toute cette recherche de ce qu'on appelle des biens du mobilier vacant pour loger de façon temporaire des familles ou pas. Tu es au courant de ça ou pas?
Analogue à celle de Bordeaux, un des paramètres étant que on n'est pas sûr aujourd'hui que la municipalité de Toulouse se décarcasse, comme on dit, par rapport à la situation à laquelle on est confronté. Sachant qu'elle est ni la préfecture par ailleurs. Moi, j'ai les dernières rencontres qu'on a pu avoir en dehors de la question de l'observatoire avec la sous-préfète chargée de cette question-là. À la sortie de la décision du tribunal administratif, qui nous a expliqué que de toute façon, il n'y a plus d'argent. Je veux dire, c'est au-delà de toute considération, la réponse de l'État, c'est de dire aujourd'hui, il n'y a plus d'argent, il faut faire des économies. Et froidement, on a eu une représentante de l'État qui nous a expliqué s'il faut, on paiera les astreintes, hein, puisque là, la décision était une décision avec astreintes au jour par jour, parce que de toute manière, il n'y a pas d'autre solution. Et en renvoyant un peu le mistigris aux gens, et notamment au secteur associatif, qui quand même pourrait en faire un peu plus pour arriver à s'en sortir. Voilà. Donc, alors, il y a de la. Après, il y a de la. La société civile tâtonne, elle essaye d'expérimenter. Il y a de l'habitat alternatif, il y a des. Voilà. Ce que souvent, nous, l'impression. Enfin, que je dis nous, c'est les associations de défense des droits, l'impression qu'on peut avoir. C'est que, justement, ça a été évoqué là, hein, c'est pour ça que je parlais de défausse. C'est le secteur associatif un peu qui est un peu comme un écureuil dans une espèce de cage comme ça dans laquelle ça tourne avec des gens qui sont normalement en situation de responsabilité par rapport à ça et qui regardent faire. Alors tout le monde est bien conscient que ça fonctionne pas et que c'est symbolisé comme ils disent, mais on ne perçoit pas aujourd'hui de volonté politique, enfin, nous par rapport au rapport qu'on a pu faire, en face de nous, c'est le silence qui est le silence radio. Hein. Voilà, c'est comme ça et à terme, ça ne sera pas autrement.
Alors, tu parles de silence radio.
Oui, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, oui, non, mais c'est très bien. C'est en fait la manifestation hebdomadaire du samedi après-midi pour défendre les habitants de Gaza qui subissent le pire. Et la manifestation, elle part de la Victoire où nous sommes. Et là, elle commence son parcours dans la ville de Bordeaux. Donc, vous, Jean-François, l'observatoire, quand même, cette méthode, ce moyen, cet outil, il a été assez utile parce que vous disiez qu'il y a eu quand même quelques améliorations.
Il y a des améliorations ponctuelles, c'est-à-dire qu'on a débusqué un certain nombre de situations qui étaient des situations insupportable à l'État et à la limite, voilà. Donc on a sur des cas qu'on a identifiés, on est intervenu en interpellant des directions d'hôtels au regard du comportement d'un certain nombre de personnes qui était bon, voilà, et les choses se sont réglées. Je crois que l'efficacité qu'il peut y avoir, outre des enjeux secondaires qui renvoient au fait qu'on travaille avec des universitaires et qu'il y a un travail extrêmement intéressant justement avec les chercheurs sur comment on articule le militantisme, la recherche en sciences sociales, qui fait qu'on produit de l'intelligibilité aussi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à comprendre et à donner à voir ce qu'on avait arrivé à décrypter un peu des systèmes de fonctionnement qui pouvaient y avoir à l'échelle qui était l'échelle de la ville. Je crois qu'on a beaucoup travaillé, il faudra qu'on en mesure les effets, c'est assez récent en fin de compte, mais on a beaucoup travaillé à essayer de voir comment, c'est un enjeu un peu théorique comme ça, mais qui a des effets pratiques et politiques, c'est comment une situation, mais c'est d'ailleurs intéressant, vous m'avez fait raconter le démarrage sur de l'indignation. Et vous racontez votre association, c'est sur de l'indignation que vous avez fonctionné. L'indignation, c'est bien, c'est un bon carburant, mais ça produit pas de l'évolution ou du mouvement social. Cette indignation, comment d'abord on peut la transmettre pour en faire au-delà de l'indignation un regard qui est un regard critique. C'est tout le travail qu'on a eu, par exemple, avec les photographes. C'est-à-dire comment ils auraient très bien pu. Et d'emblée ils ont reculé de dire d'aller photographier en gros les punaises de lit et les taches sur les draps, je veux dire, et de dire voilà, ça c'est scandaleux, c'est ignoble, oulala, etc., etc. Alors ils se sont un peu engueulés entre eux et tout, c'était intéressant parce que c'est ça, mais aussi un travail de laboratoire, et ils ont dit non, il faut montrer la banalité dans ce qu'elle a d'insupportable. Et deuxième chose auquel on a été très attentif, c'est de montrer aussi la réactivité et la capacité qu'ont les gens, les familles, de combiner en permanence, de se mettre en solidarité, des moments donnés, de dépasser des situations dans lesquelles ils sont. Autrement dit, ce ne sont pas que des objets de gens qui sont victimes de violences, de domination, mais il y a aussi là-dedans un potentiel, une capacité de dépasser ce genre de choses-là. Et c'est vrai, nous on a vu des trucs, faut voir, quand on passe 2 ans d'une part dans une chambre, s'effondre, c'est clair, mais ces gens-là ne se sont pas effondrés. Il faut dire que quand on est migrant et qu'on a traversé la Méditerranée, on est blindé sur un certain nombre de choses. Et voilà. Mais comment les gens arrivent à être réactifs par rapport à ce genre de choses, comment ça produit des effets qui sont aussi des effets de solidarité, qui fassent qu'on sorte de l'indignation et un peu surplombante des fois qu'on a par rapport aux gens qui sont dans la difficulté, comment à un moment donné on peut reconstruire des rapports plutôt du registre de l'alliance. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ce qui est un vrai enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la difficulté, à la fois, il faut les accompagner, mais il faut aussi construire avec eux et les reconnaître aussi en tant qu'acteurs. Et ça a été un vrai boulot, l'enquête qu'on a avec eux. Et ils nous ont expliqué, bon, encore une fois, venez voir l'expo, on a essayé de tâtonner pour trouver comme ça des moyens de rendre compte de ces choses-là. On pourrait être à leur place, c'est ça qu'on voulait dire aussi. Et ils ne sont pas plus démunis ou plus, j'ai envie de dire, plus caractériellement, plus cons que nous parce qu'ils sont plus pauvres. Voilà.
Antonio, vous proposez quoi en fait ? Vous proposez de les suivre, ces personnes ?
Alors, nous, ce qu'on propose, c'est qu'alors, mais alors ça, on est dans un autre type de choses. Peut-être les suivre ou les accompagner, mais pas forcément les prendre en charge dans un registre, vous savez, comme on prend un objet qui est un objet en charge. Mais ça renvoie, je veux dire, on est au carrefour de. Ce qu'on propose, c'est pas forcément de revenir en arrière, par exemple, au sens de les grands équipements dans lesquels on accueille des gens, etc., etc. Mais comment on imagine aussi, parce que pour nous, on défend des droits, mais Ligue des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire que c'est pas que la défense, mais c'est aussi la question de la citoyenneté, comment la mobilisation sur les droits produit aussi une dynamique qui est une dynamique collective qui va faire qu'on va inventer avec la société civile, tout à l'heure on parlait de boucles, de solidarité ou des trucs comme ça, comment on va réinventer des modalités de développement du social, y compris avec les acteurs, y compris avec les familles. Ça c'est un vrai enjeu, je trouve, qui est important, quoi. Et voilà.
Le squat, enfin les squats, le phénomène du squat, en fait c'est une réaction, les gens sont à la rue, il faut qu'ils se logent quelque part, et nous avec
refuge. Moi, je crois le mot juste pour l'escouade, c'est du refuge.
C'est aussi une réaction, c'est-à-dire, on est dans la vie. Nous, avec notre association, on se propose de mobiliser du foncier. En fait, les premières personnes qui l'ont fait, c'est ceux qui se sont réfugiés, les squatteurs. Ils ont trouvé des logements. Ils se sont... Donc, avec l'association Tripoté Mascane, on les accompagne. C'est-à-dire qu'on leur donne le coup de main pour l'accès à l'eau, l'électricité, etc. Une certaine forme de confort, entre guillemets. Enfin, de base, minimaliste. Mais les premiers acteurs de cette mobilisation, c'est eux. Et donc, effectivement, il s'agit de les accompagner. Donc, tu parlais de solution, effectivement, une solution d'accompagnement.
Harmonie. Pardon,
moi, ça me fait beaucoup réagir ce que vous dites. Je pense qu'effectivement, on a un vrai enjeu à revenir à la notion de base de la solidarité dans notre société. Si tout à l'heure, en vous quittant, je tombe en vélo et que je me casse la jambe, il ne viendrait pas à l'idée aux gens de dire « Regardez l'assisté qui va se faire soigner à l'hôpital, qui s'est cassé la jambe, on a payé le prix de son plâtre et du médecin qui lui a remis la jambe. » Et sur la question de pauvreté, de précarité... Aujourd'hui, on a, et depuis des années, vraiment une société qui s'est tournée vers la dénonciation des personnes qui sont en situation de précarité. Et pourtant, c'est d'une part des accidents de vie, d'autre part, c'est le résultat d'une société que l'on a nous-mêmes construit avec des exclus, des excluants, avec des dominations, avec des prédations. Et donc, on a un vrai travail, chacun dans notre rôle. Moi, je suis une femme politique, je suis engagée dans un parti, je suis élue locale, mais aussi les associatifs, les simples citoyens, les personnes qui votent, les jeunes. On a vraiment une nécessité importante de remettre la société au cœur de notre action publique, au cœur de nos actions militantes, au cœur de nos actions familiales et amicales, aussi pour dire qu'on ne fera rien si on n'est pas ensemble, on ne fera rien sans les solidarités. Et c'est un enjeu important aussi de paix sociale et de paix civile. La dislocation de la société, la séparation des gens ne risque que de nous amener à des conflits encore plus importants. Et les personnes pauvres, ici à Bordeaux, on le dit haut et fort, les personnes pauvres, les sans-abri sont des habitants et des habitantes de Bordeaux. Et nous devons avoir des attentions les uns les autres. Pas faire comme si on était tous sur un pied d'égalité, mais pour autant, on doit remettre la solidarité au cœur de notre mode de vie.
Tout à l'heure, avec ce que disait, excuse-moi, je me souviens. Quand tu parlais d'indignation, j'avais entendu. Indignation, c'est bien beau, mais bon, il faut aller un peu plus loin, ou j'ai mal compris peut-être. Bon. En ce qui concerne le travail mené dans une association comme la nôtre, par exemple, oui, il y a l'indignation au départ qui est très forte. Et le carburant, mais après, il y a une action, à savoir justement. Un accompagnement, mais ça suppose aussi un engagement personnel extrêmement important. Et cet engagement personnel, tel que nous le vivons de toute façon, c'est aussi, de fait, un engagement politique, avec une certaine définition de la politique. Parce que ça transforme les gens, de toute façon, quand on accueille chez soi, qu'on partage son quotidien, qu'on ouvre de toute façon tout son réseau de famille, d'accueil, de copains, etc. On transforme son quotidien, on amène quelqu'un chez nous, on se transforme mutuellement. Hein ? Et ça, voilà, je voulais dire, ça aussi, c'est un engagement politique. Hein. Ça correspond à une certaine idée de la politique. Voilà, au plus près des gens, en direct, en prise.
Voilà, je vous rappelle qu'on est sur la Clé des Ondes, la radio associative et libre de Bordeaux, pour un débat autour des personnes à la rue et de la défaillance très grave de l'État, qui pourtant devrait les héberger au moins d'urgence. Et on est en train de voir quelles sont les solutions ou qu'est-ce qu'il faudrait rappeler ou mettre en avant. Alors on pourrait terminer ce débat là-dessus. Harmonie, tu disais régularisation. Moi, je te suivrai, je te dirai régularisation, régulariser ces personnes qui sont en France. Et là, je parle au nom du réseau Éducation sans frontières. Ces personnes que nous accompagnons, que nous connaissons depuis des années, 5, 10 ans. Savez-vous qu'il y a dans ce pays des gens qui sont ici depuis 10, 15 ans, qui n'ont toujours pas de titre de séjour, qui demandent régulièrement des régularisations, à qui on envoie des OQTF particulièrement humiliantes, des obligations à quitter le territoire français, avec des arguments qui sont absolument inacceptables. Des fois même, ce sont des arguments qui sont faux. Bref, on entretient une précarité non seulement matérielle, mais une précarité intellectuelle, mentale, très très lourde, très très dure. La solution, c'est la régularisation. Vous régularisez ces personnes, elles travaillent, elles trouvent elles-mêmes un logement, et c'est fini. Vous n'entendrez plus parler des personnes
elles sont des gens intégrés, elles n'attendent... Moi, j'insiste beaucoup là-dessus sur le fait que les associations, tous autant qu'on est, quand on accompagne, en fait, on participe à ce processus d'intégration. Quelque part, on fait le taf, il ne reste plus qu'une chose, c'est un tampon officiel de la préfecture, le plus facile... Il reste le plus facile. Et ensuite, eh bien, c'est l'intégration. Et tout va bien. Enfin, tout va bien. Après, c'est la vie. C'est la vraie vie.
Merci à Gérard Clabé pour l'animation de cette table ronde à l'occasion du Congrès national de la Ligue des droits de l'homme sur le village associatif qui avait été installé Place de la Victoire à Bordeaux. C'était il y a 10 jours. Pour vous rappeler cette actualité, cette journée de mobilisation qui se prépare pour faire cesser le scandale des élèves sans domicile, avec cette journée qui se prépare pour le 6 juin et une réunion d'information et d'organisation qui a lieu ce soir à 18h à la zone à partager à Bègles, 1 place du 14 juillet. Une magnifique chanson pour nous accompagner sur la fin de ce plat de résistance, chanson Kanak, pour vous annoncer l'émission qui aura lieu ce soir. C'est Yapou. Yapou, toutes les musiques sur les musiques et danses de l'archipel d'Océanie. Musique en temps de décolonisation. Une rediffusion qui avait d'une émission qui a eu lieu en février 2023. Ça, ce sera pour 20h et à 19h, il y aura La Voix Off. La Voix Off qui reviendra sur les violences et harcèlements sexuels et sexistes, avec des violences majoritairement masculines et des victimes majoritairement féminines. Adonné.